Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité hier lundi la résolution 2106 sur la violence sexuelle en zone de conflit. Cette résolution est axée sur la nécessité d'éradiquer le viol et la violence sexuelle dans les zones de conflit. Quelle analyse faire de cette nouvelle résolution qui vient compléter la résolution 1325 qui a statué sur la protection des femmes, la paix et la sécurité? Trois invités participent à cette émission. Madame Annie Kenda, directrice des services juridiques au ministère du Genre, Famille et Enfants. Madame Kenda, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Madame Solange Louachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix. Madame Louachiga, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Richard Bondo, président de l'ONG Avocats sans frontières RDC, il est conseil à la CPI et au tribunal spécial pour le Liban. Maître Bondo, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité hier lundi la résolution 2106 sur la violence sexuelle en zone de conflit. C'est à l'initiative du Royaume-Uni, qui préside le Conseil pour ce mois de juin. Le secrétaire général des Nations Unies qui a assisté à l'adoption a démontré que ce texte est un signal fort aux auteurs des crimes tenus pour responsables. Kéline Couté pour les détails.
Cette résolution 2106 adoptée hier lundi 24 juin vient compléter la résolution 1325 qui a statué sur la protection des femmes, la paix et la sécurité. La 2106 est axée sur la nécessité d'éradiquer le viol et la violence sexuelle dans les zones des conflits. La résolution reconnaît aussi qu'une investigation et une documentation efficace sur la violence sexuelle en zone des conflits sont essentielles à la traduction en justice des auteurs et au recours à la justice par les survivantes. Celles-ci doivent bénéficier d'un appui rationnel et soutenu pour augmenter le nombre de procès aboutissant à la condamnation des bourreaux. Mais au-delà de ces efforts indispensables, Ban Ki-moon a insisté sur l'obligation qui incombe aux autorités nationales et au Conseil de sécurité de protéger les femmes et de lutter contre l'impunité. La violence sexuelle a des effets dévastateurs sur les survivants. Elle détruit le tissu social des communautés entières et menace la paix et la sécurité internationale, a-t-il conclu. Le secrétaire général a fait valoir qu'aux résolutions déjà adoptées par le Conseil s'ajoutera aujourd'hui un nouveau texte qui envoie un signal fort aux auteurs des crimes tenus pour responsables. Cela montre, selon lui, que la prévention de la violence sexuelle est une responsabilité commune qui doit faire l'objet d'une appropriation nationale. Cela inclut l'arrestation et la poursuite des auteurs, ainsi que la prise en charge des survivants en améliorant l'aide médicale, psychologique, sociale et juridique. Ce qui, au final, pour le secrétaire général, implique la mobilisation des ressources nécessaires, y compris financières.
Merci Kéline Couté. Pour sa part, la ministre française Najat Vallaud Belkacem a déploré le fait que le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille. Pour elle, les violences sexuelles commises en période de conflit ne doivent en aucun cas tomber dans l'oubli ou rester impunies. La porte-parole du gouvernement français plaide donc pour la poursuite des actions concrètes contre les violences sexuelles dans les conflits. Ces actions, selon elle, doivent être fondées sur la prévention, la protection et les poursuites, mais aussi la participation des femmes au processus de paix et de reconstruction. On écoute la ministre française dans cet extrait proposé par nos confrères de la Radio des Nations Unies à New York.
La participation des femmes dans la résolution des conflits est, me semble-t-il, la seule réponse durable. La mise en œuvre par la communauté internationale de la résolution 1325 doit se poursuivre, sans relâche. Depuis son adoption, d'ailleurs, la prise de conscience de cette évidence a progressé, mais elle tarde à se concrétiser sur le terrain. Au Mali, comme en Syrie, en République démocratique du Congo, comme en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Soudan, en Libye, les femmes doivent absolument pleinement contribuer à la stabilité de leur pays. Je crois qu'aucune transition ne sera durable sans la prise en compte de la participation de la moitié de l'humanité.
Madame Annie Kenda, vous êtes directrice des services juridiques au ministère du Genre, Famille et Enfants. Madame, qu'est-ce que c'est l'adoption de la résolution 2106 vient apporter de neuf dans la lutte contre les violences sexuelles?
Merci de m'avoir accordé cette occasion.
Cette résolution a une grande importance. Elle vient effectivement apporter un ouf de soulagement, étant donné qu'il y a une volonté manifeste qui s'est manifestée bien avant la prise en compte de cette résolution. Je tiens d'abord à signaler que nous remercions d'abord le Royaume-Uni d'avoir levé le temps pour pouvoir mener cette lutte et encourager les autres États à pouvoir emboîter les pas pour que nous puissions avoir cette résolution. Et aussi, nous remercions au nom de notre ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Bangoura, qui y avait pris part à beaucoup d'actions ici et qui a vécu la situation dans notre pays, la situation selon laquelle les femmes sont victimes. Et à son retour, nous voyons la prise de cette résolution. Et après le 30 mars, vous savez qu'il y avait un communiqué conjoint qui avait été signé entre Madame Bangoura et le Premier ministre congolais. Le Premier ministre congolais, il y avait un engagement conjoint et qui a montré la collaboration entre les Nations Unies et notre gouvernement à pouvoir lutter pour éradiquer les violences. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une volonté politique manifeste qui s'est réalisée dans les chefs de membres du gouvernement de notre pays et qui a conféré avec les Nations Unies. Et cela déjà, c'est un signal fort que nous devons faire remarquer ici pour faire voir que la résolution vient apporter un nouveau souffle qui montre que le monde entier s'engage pour un leadership du Conseil national de sécurité et qui engage maintenant tous les autres pays pour que la question de la violence puisse être une question des sociétés, une question des nations, une question où tout le monde s'engage pour que ça soit éradiqué. C'est vraiment un signal fort que nous devons dire que cette résolution vient de marquer, bien que elle vient compléter les autres résolutions qui ont existé dans notre pays.
Voilà, nous allons prendre pour vous, Madame Annie Kenda, cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga, au Kasai Occidental. Ne peut-on pas qualifier la résolution 2006 telle que votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant une résolution de trop? Car comment expliquer la résolution 1325 votée toujours par le même Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais été appliquée? Et qu'est-ce qui prouve que celle-ci sera appliquée?
Voilà, réaction madame, on passe déjà, il y a une nouvelle résolution, la 2106, alors qui vient compléter la 1325, qui pourtant, d'après plusieurs analystes, plusieurs observateurs, n'a presque pas été appliquée.
Oui, sa préoccupation est fondée, sa préoccupation est aussi notre préoccupation. Mais vous savez que nous ne pouvons pas dire que cette résolution 1325 n'a jamais été appliquée d'une façon totale. Elle a été appliquée parce que dans notre pays, comme l'a dit madame la française,
Belkacem, la ministre française
qui a parlé de 52% de la population qui est marginalisée. Et vous savez que aujourd'hui, il y a une prise de conscience par rapport à l'implication des femmes dans le processus de conflit. Et depuis toujours, la femme n'était pas impliquée et la femme ne pouvait même pas participer dans les postes, dans les résolutions de conflits. Mais aujourd'hui, avec la résolution 1325, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, peut-être il n'est pas au courant. La ministre du Genre, Famille et Enfants a signé des arrêtés pour qu'il y ait des comités de pilotage au niveau national, au niveau provincial et au niveau local pour que tous ceux qui travaillent dans la question puissent être impliqués et puissent avoir un même langage, une même compréhension de la question et puissent aussi faire de sorte que la communauté soit proactive dans le sens qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour pouvoir agir. Et des sensibilisations ont été faites sur base de la résolution 1325, des formations ont été faites sur la résolution 1325, mais c'est un processus, nous devons continuer. Et par rapport à cette résolution, en comparant avec la résolution 1325, comme je venais de le dire, il y a eu d'abord des pourparlers avant. Il y a eu beaucoup de visites dans notre pays, même dans des pays, dans d'autres pays africains où il y a des guerres. Il y a des formations qui sont en train de faire, il y a des prises de conscience, il y a des émergences. Et ce qui veut dire que nous ne pouvons pas dire que nous, c'est bien sûr une des résolutions qui vient accompagner les autres résolutions, mais nous devons maintenant nous mettre tous en place, en tête que il faut que les États mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de toutes ces résolutions. Merci. Parce que ça se complète.
Merci, madame. Madame Solange Loachiga, vous êtes secrétaire exécutive du caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix. Comment, à votre niveau, vous avez reçu l'adoption de la résolution 2106?
Merci beaucoup. L'adoption de cette résolution, pour nous, nous avons trouvé que c'est encore un instrument juridique au niveau de la communauté internationale qu'il vient de mettre à la disposition des États membres. Mais je me dis que cette résolution qui vient s'ajouter à toute une pile d'autres résolutions telles que la 1820, la 1888, la 1960 et même la 1889, je me dis qu'il faudrait d'abord faire l'état des lieux de ces résolutions précédentes. Qu'est-ce qui a été déjà? Et donc, cette résolution 2106, c'est encore une fois un texte de bonnes intentions de la part de la communauté internationale, mais je me dis que tant que les actions concrètes ne seront pas effectuées, ne seront pas mises à la disposition des victimes de violences sexuelles, et surtout pour le cas de la RDC, je me dis que les femmes de la RDC et surtout celles de l'Est continueront toujours à souffrir. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même l'existence de ces résolutions s'est fait sentir par écrit, mais quelle est la réalité? Est-ce que nous pensons que la femme qui est à Kaniola, quand je parle de Kaniola, c'est un lieu dans le territoire de Walungu, là où il y a eu des massacres. Les femmes qui sont à Kasika et dans les territoires du Sud Kivu et même à l'Est, est-ce que nous pensons que ces femmes ont besoin de ces textes ou elles ont besoin de voir la situation sécuritaire être rétablie et que ces femmes vaquent quotidiennement à leurs activités? Je me dis qu'aujourd'hui, ce que ces femmes attendent, ce ne sont plus ces textes-là. Parce que je me dis, la 1325, je suis d'accord avec Madame Annie Kenda, il y a des actions qui ont été déjà faites, mais ces actions ne suffisent pas. On doit attendre combien de fois? Aujourd'hui, au niveau, par exemple, de la province, les comités locaux sur la mise en œuvre de la 1325 ne sont pas installés. Les femmes ne connaissent pas cette résolution. Du jour au jour, ce sont les femmes qui sont victimes des violences sexuelles. Et cela même laisse entendre que l'Est de la RDC vit dans un silence total de la part de beaucoup d'acteurs.
Madame Loachiga.
Donc pour moi, c'est une résolution, bien sûr, qui pourra servir d'un outil de plaidoyer, mais en attendant qu'on fasse ce plaidoyer, ce sont des femmes, des milliers de femmes qui continuent à souffrir à l'est de la RDC.
Alors, madame, vous évoquez la question de l'état des lieux des précédentes résolutions, des précédents textes qui ont été adoptés en ce qui concerne, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Souffrez que je vous retourne la question. Vous avez énuméré quelques faiblesses autour de la résolution 1325, pas d'installation des comités locaux. D'après vous, pour ne parler que de la résolution 1325 qui est la plus proche, le bilan est-il positif, mitigé ou négatif, parce qu'on sait que cette résolution avait statué sur la protection des femmes, la paix et la sécurité?
Pour moi, le bilan laisse-moi le dire, c'est un bilan mitigé. Depuis 2000 que cette résolution a été votée, par rapport à la protection des femmes pendant les périodes de conflits, si vous essayez de faire un tour et voir les organisations et les hôpitaux qui prennent en charge les femmes victimes de violences sexuelles, c'est tous les jours. Quelle est la protection que bénéficie la femme de l'Est de la RDC? Si nous parlons de la représentation des femmes autour de la table de négociation, si j'essaie de voir, gérer-t-il lors de Sun City, là où les femmes congolaises ont abattu un travail énorme et qui ont conduit qu'on arrive à cet accord global inclusif 1 plus 4. Mais aujourd'hui, toutes les tractations qui se font en RDC, est-ce qu'on tient compte de cette victime, cette femme qui a contribué dans la recherche de la paix? Si nous essayons de voir la représentation des femmes dans les instances de prise de décision, en RDC, c'est moins de 13%. Laissez-moi saluer le gouverneur des provinces du Sud Kivu qui venait de hisser 4 femmes ministres sur 10 avec 2 femmes secrétaires exécutives. Et donc, vous comprenez que les textes de bonnes intentions, nous en avons. Au niveau international, il y en a. Au niveau national, notre constitution elle-même. Qu'est-ce que nous faisons de cette constitution? Faudra-t-il continuer à accueillir des textes de bonnes intentions au niveau de la communauté internationale et qu'au niveau du pays, le processus avance à pas de tortue? Moi, je pense qu'il y a des textes qui semblent cajoler les femmes, cajoler les victimes de violences sexuelles.
Merci.
Franchement, si les femmes qui sont à l'intérieur pouvaient avoir le temps de s'exprimer devant la communauté internationale, je pense que les gens qui votent ces textes devraient réfléchir deux fois
avant
de les voter.
Merci, madame.
Pour terminer d'abord cette étape,
conférences... Merci madame, je vous redonne la parole tout à l'heure, le temps de la repasser à maître Richard Bondo, président de l'ONG Avocats sans frontières RDC, également conseiller à la CPI et au tribunal spécial pour le Liban. Maître Bondo, comment vous avez reçu l'adoption de cette résolution?
Merci beaucoup de la question. Pour ma part, je voudrais simplement apaiser madame Solange. Je sais que l'accent pathétique qu'elle emploie est une interpellation, qu'elle dirige à l'endroit des décideurs de notre pays. Mais il faudrait aussi qu'elle dirige cette interpellation à l'endroit de tous les acteurs. Les acteurs, j'entends, les acteurs sociaux, les acteurs politiques. Nos ONG doivent peser dans la balance. Il faut que les acteurs sur terrain se comportent comme des indignés qui militent pour que ces résolutions produisent les effets à l'intérieur, à l'interne. Parce que, à New York, le Conseil de sécurité voudrait délivrer l'humanité de la barbarie. Mais si, à l'intérieur de la RDC, les acteurs sociaux n'exercent pas des pressions en tant que groupe de pression, n'exerce pas de pression sur les décideurs politiques. Je crois que ces textes resteraient effectivement des chapelets de bonnes intentions. Mais si nous jouons notre rôle de groupe de pression sur les décideurs, je suis sûr que la pression intérieure de tous ces groupes, à savoir les différents mouvements des femmes, les ONG de défense des droits de l'homme, à l'interne, si nous exerçons effectivement notre pression à la lettre, c'est toutes ces résolutions pour la protection des femmes serait d'application.
Mais maître, on sait comment ça fourmille ici, ça se bouscule dans tous les sens. Pensez-vous que cet engagement n'est pas suffisant au niveau des ONG?
Non, il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il nous manque un outil important, à savoir l'effectivité de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce que dans cette commission, nous aurons des femmes, nous aurons des syndicalistes, nous aurons des défenseurs des droits humains de manière générale, nous aurons des confessions religieuses. Tout ce beau monde peut jouer et peser dans la balance pour que l'impunité soit éradiquée, pour que les violences et les viols soient également éradiqués. parce que le droit s'arrache. Le droit, il ne faut pas l'attendre sur un plateau d'or. Il faut se battre pour l'arracher et en jouir. Voilà pourquoi je dis bien que cette résolution vient renforcer l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre les viols et les violences sexuelles dans les zones à conflit comme les nôtres. Et c'est pour cela que moi je dis, cette résolution, il ne faut pas la considérer comme une simple déclaration de bonnes intentions, mais un outil, ou une arme. D'ailleurs, le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, a utilisé le terme que l'expression selon laquelle les violences sexuelles et les viols sont comme les chars et les balles. Donc, si nous, en tant qu'acteurs sociaux, nous exerçons des pressions sur les décideurs politiques pour que la future Commission nationale des droits humains, je parle de notre pays, soit réellement un organe technique pour la promotion et la protection des droits humains, je pense nous pouvons, même à 60 ou 70%, arriver à réaliser les objectifs ou atteindre les objectifs de toutes ces résolutions que Madame Solange a énumérées.
Voilà. Madame Annie Kenda, la ministre française Najat Vallaud de Belkacem, dont on suivait l'extrait tout à l'heure, dit par exemple que le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille. Comment vous comprenez cette phrase?
Oui, elle a bien raison de dire cela, parce que même la résolution reconnaît que la violence utilisée pour détruire les vies, déchirer des communautés et atteindre les objectifs millénaires, militaires, tout comme le sont les chars et les balles, comme venait de le dire Maître. Et c'est pour dire que le viol qui est utilisé comme arme de guerre détruit effectivement des vies humaines. Et vous savez que la femme, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui conserve, c'est la femme qui protège, c'est la femme qui assure même la sécurité de la famille. Et il est dit que si vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Et quand maintenant cette femme-là qui donne cette assurance pour une vie solide est détruite comme ça, c'est toute la nation qui est détruite. Et c'est pour cela, comme venait de le dire Maître Bondo, il faudrait que nous puissions tous nous aligner pour avoir la même compréhension de l'opportunité de cette résolution, dans le sens que trop c'est trop. Nous devons nous engager pour que ça s'arrête. Comme l'a dit le ministre britannique, et c'est inacceptable qu'on continue à supporter des sortes de ces violences. Parce que vous savez, dans les temps, avec les conventions de Genève, la femme, les enfants étaient protégés pendant la guerre.
Mais madame, la résolution 2106 reconnaît aussi qu'une investigation et une documentation efficaces sur la violence sexuelle en zone de conflit sont essentielles à la traduction en justice des auteurs et au recours à la justice par les survivantes. Mais on sait que la justice en RDC, ça reste quand même parmi les maillons faibles.
Oui, je sais que la justice... Et c'est vraiment une préoccupation majeure et qui est manifeste dans la résolution. Mais nous ne pouvons pas continuer à dire que dans notre pays, la justice est un maillon faible. Nous avons bien sûr des difficultés par rapport à cette question. Mais sachez qu'il y a des actions fortes qui ont été prises dernièrement avec la politique de la tolérance zéro, où il y a eu des cas qui ont été... condamné au niveau de Minova quand il y avait des soupçons pour le fait qu'ils étaient des victimes. Ils ont été sanctionnés et mis à la disposition de la justice et jusqu'à présent ils sont en train de croupir en prison pour pouvoir subir les sorts de ce qu'ils ont commis comme acte. Et dernièrement, vous savez qu'il y a eu aussi l'immunité des députés qui ont été aussi condamnés et qui sont en train d'être poursuivis. Et il y a beaucoup de cas qui qui sont aujourd'hui poursuivis et qui sont devant les juridictions par rapport au cas de violence. Nous savons que nous sommes dans un processus, comme je l'ai dit, et la justice est en train de prendre l'élan pour pouvoir poursuivre des cas de violence sexuelle dans notre pays. Il n'y a plus de cas qui restent vraiment sans être poursuivis.
Voilà, Madame Solange Luachiga, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Octave Zaïnda, à partir du site Kivu, dans la ville de Bukavu. La problématique des violences sexuelles est une question qui fait couler beaucoup d'encre et les salives dans notre pays. Et pour mettre fin à cela, la solution n'est pas magique. Il faut mettre fin au conflit armé et arrêter ceux qui financent la guerre ou les guerres dans notre pays pour éradiquer ces violences. Parce que on a déjà signé beaucoup de textes, mais il n'y a pas de solution. Et les bourreaux sont dans notre pays et ils sont très bien connus. C'est pourquoi nous exigeons à ce que notre gouvernement, pour ne pas parler de l'armée et de la communauté internationale, de mettre fin aux conflits armés.
Réaction, Madame Luachiga.
Oui, effectivement. Voilà. Je suis content que mon confrère puisse abonder dans les idées que j'avais. À l'est de la RDC, tant qu'on ne mettra pas fin à ces conflits armés, les groupes armés étrangers, les groupes armés négatifs, les forces négatives, les M23 par exemple, on va avoir ces textes, ces résolutions, la situation ne pourra pas changer. Actuellement, par exemple, nous sommes dans une confusion. On a parlé, par exemple, de la brigade internationale. Mais on a tendance à croire que le langage de la communauté internationale commence à changer. Avant, on a dit force offensive. Aujourd'hui, on dit force dissuasive. Et ça fait laisser les femmes de l'Est de la RDC dans une confusion totale. Donc, il faut éradiquer ces conflits. Il faut sanctionner ceux-là qui alimentent ces conflits. Ils sont bien connus, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a d'autres acteurs invisibles. La communauté internationale sait comment les Rwandais sont arrivés en RDC et ni c'était cette entrée massive en RDC, l'Est de la RDC ne connaissait pas la situation qu'elle est en train de connaître aujourd'hui.
Madame, la ministre française Belkacem propose 4 pistes qu'elle appelle les 4 P pour mettre pour que cette résolution puisse atteindre ses objectifs. Elle parle notamment de la prévention, de la protection, des poursuites, ainsi que de la participation des femmes au processus de paix et de reconstruction. Pour ne s'arrêter que sur ce dernier point, pensez-vous qu'en RDC, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, faire participer les femmes au processus de paix et de reconstruction?
Oui, au fait, on ne va pas dire que tous les processus en RDC sont négatifs, non. Il y a des petits efforts, mais on constate que là où les grandes décisions se tiennent, par exemple, quand on élabore des programmes en matière de prévention, en matière de protection, où est la part de la femme? Ce sont des programmes qui s'élaborent à l'absence de la femme. Et pourtant, cette femme qui est victime et qui est en même temps actrice et qui a des propositions concrètes, cette femme, on ne la voit pas. On voit des hommes et comme vous le savez, qui porte les armes? La majorité, ce sont des hommes. Mais ces hommes oublient que ces armes qu'ils portent, c'est pour détruire la communauté, c'est pour détruire cette femme qui a donné naissance à ces hommes. Et donc, ces quatre pistes de solution, pour moi, seraient bonnes si ces pistes seraient entourées de mesures effectives de faire participer la femme à toutes ces quatre pistes, donc prévention, protection, et voilà.
Voilà. Maître Bondo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema.
Charles Ingen à Kalima, dans la province du Maniema. Les votes à l'unanimité de cette résolution est un bon signe de solidarité internationale pour combattre la violence sexuelle. Mais si on fait un clin d'œil sur la réalité sur le terrain, nous demandons à l'ONU de faire un pas de plus, celui d'accompagner financièrement et matériellement la réforme des appareils judiciaires des pays affectés par les conflits armés, et tout cela dans le souci majeur de mettre fin à l'impunité.
Réaction, maître.
Je crois que notre compatriote a raison partiellement, parce que la responsabilité de nous protéger incombe principalement aux autorités nationales, à l'exécutif national, au pouvoir judiciaire, au pouvoir législatif. C'est les autorités de notre pays qui doivent assurer notre protection.
Une question de souveraineté.
C'est une question purement de souveraineté. Par rapport, surtout que nous ici, nous avons, outre les groupes armés nationaux, il y en a qui sont armés par nos voisins ou bien des multinationales. Tout le monde le sait. Mais la vertu de toutes ces résolutions, c'est qu'elles viennent s'inscrire dans la logique de la convention ou des conventions de Genève, et cela a été renforcé avec la jurisprudence et la doctrine des tribunaux et cours internationaux qui gèrent les conflits, disons, qui examinent ce genre de conflits. C'est ainsi que, par exemple, depuis la mise en place du tribunal pénal international sur le Rwanda jusqu'à la CPI, à la Cour pénale internationale, en passant par le tribunal pénal international sur la Yougoslavie, je crois que les décisions prises par toutes ces juridictions vont dans le sens de combattre l'impunité et de combattre toutes ces violences, tous ces viols, toutes ces exactions, toutes ces graves infractions que certains esprits, que certains êtres commettent à l'endroit de leurs semblables. Et moi, je dis, parce que le compatriote pose le problème du financement par la communauté internationale, mais nous avons toujours reçu l'assistance. Mais que faisons-nous de cette assistance? Le problème n'est pas de demander à la communauté internationale de venir nous protéger, c'est peut-être d'obtenir cette assistance et de savoir l'utiliser à bonne fin. Donc, la responsabilité de protéger les Congolais incombe principalement à nos autorités.
Laurent de Bukavu, Sud Kivu, cette résolution 2106 n'aura jamais un impact positif sur terrain, car notre loi de 2006 sur les violences sexuelles reste muette ou inerte. Nous n'avons pas des magistrats ni OPJ formés sur les violences sexuelles. Ils facilitent au contraire les arrangements à l'amiable pour s'enrichir, maître Bondo.
Non, c'est ça ce que je disais, que le problème ici, les gens tirent beaucoup sur la magistrature sans savoir pourquoi cette magistrature est affaiblie. La magistrature est affaiblie parce que l'exécutif ne donne pas les moyens, ne dote pas la magistrature de tous ses moyens. Parce que pour qu'un magistrat puisse, par exemple, dans les zones à conflit, comme tout l'est de la République démocratique du Congo, où des brigands, des bandes armées peuvent facilement tuer même les autorités qui assurent la sécurité des magistrats. Même les magistrats militaires n'ont pas la garde suffisante ou suffisamment armée pour leur protection. Parce qu'il faut d'abord protéger les magistrats, les mettre à l'abri du besoin, à l'abri de la peur, de les responsabiliser dans le sens de servir la nation, parce que c'est cette nation qui les prend en charge. Mais lorsqu'on abandonne les magistrats à leur triste sort, lorsqu'ils ne sont pas payés comme il se doit, lorsque ce qui peut être alloué aux magistrats est détourné par les gestionnaires de l'exécutif, comment voulez-vous que tous ces criminels, les bandes armées qui écument l'est de la République démocratique du Congo, on puisse y mettre fin? On peut y mettre fin s'il y a une volonté politique réelle d'y arriver, en dotant la magistrature de tous les moyens utiles et conséquents.
Madame Annie Kenda, mettre fin au conflit armé reste finalement le seul véritable préalable pour la mise en pratique, la mise en application de toutes ces résolutions.
Je pense que c'est ça le grand défi que nous devons relever ici et sur lequel nous devons tous tabler pour qu'il y ait effectivement la fin de la guerre. pour que les résolutions soient réellement effectives. Et c'est là notre combat et c'est là le combat même de la communauté internationale quand vous voyez dans leurs résolutions, au point 19 de cette résolution, ils stigmatisent le fait que les ressources doivent être mises en œuvre pour que doivent être déployées et par les nationaux et par la communauté internationale pour que s'arrête la guerre et que la coordination de la lutte contre les violences et les violences basées sur les genres soit réellement effective et soit renforcée en ressources pour que les victimes soient prises en charge. Et il relève même le point selon lequel il faut que on puisse assurer la réparation et l'accès à la justice des victimes. Et cet accès et cette réparation ne pourra être bienvenue que s'il y a arrêt de la guerre. Et c'est notre souhait. Nous voulons vraiment que la paix soit effective dans notre pays.
Héritier Kiatenda de Goma en Nord Kivu, cette énième résolution de l'ONU contre les violences sexuelles en zone de conflit, 2106, est de trop car les précédentes résolutions n'ont rien produit sur terrain. Ce qui me pousse à poser des questions aussi après. Quelle est la particularité de cette résolution aux précédentes et qu'est-ce que cette résolution aura-t-elle des effets palpables? Par exemple, le gouvernement congolais est en pourparler avec le M23, cité parmi les forces négatives, Madame Kenda.
Et je pense que nous l'avons bien dit. La force de cette résolution, c'est qu'elle reconnaît que le viol, c'est une arme de guerre et que c'est un engagement qui est pris à un niveau élevé de Nations Unies, avec des nations qui sont concernées. Et nous plaidons pour que ça soit effectivement mis en œuvre et que cet engagement soit réel. Et avec la situation à l'est de notre pays, nous voulons que cette résolution soit vraiment, comme venait de le dire Maître Mbondo, que l'action des acteurs de terrain, de la société civile, soit forte, qu'ils puissent prendre cela comme un outil pour pouvoir faire le plaidoyer et sensibiliser les uns et les autres afin que les pourparlers de Kampala avec M23, avec tous les acteurs qui sont impliqués puissent être vraiment au courant et qu'ils mettent en œuvre effectivement cette résolution.
Merci.
Et je pense que la situation pourra changer et c'est notre souhait.
Madame Solange Luachiga, je signale entre-temps qu'il nous reste au moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Maître Christian Biona de Kisangani en province orientale dit « Il faut encore faire une vulgarisation large de ces résolutions à travers les ONG et associations œuvrant dans les zones de conflit et une volonté manifeste des autorités à vouloir coopérer pour accorder une justice équitable aux victimes. » Bampouriki Isaac qui est à Bukavu Sud qui vous dit « Il n'est pas certain que les fonds d'aide aux femmes violées soient effectivement affectés à cette fin. C'est là qu'on un autre calvaire auquel on ne fait pas attention, madame. »
Oui, moi je pense que je suis d'accord avec mon confrère, il faut vulgariser. Mais les premiers destinataires de cette résolution, ce sont les États. Les États qui ont l'obligation de protéger leur population. Et donc je pense que comme l'ont dit les autres, il faut d'abord que la guerre cesse à l'est de la RDC. Et qu'on cesse de nous plonger dans un jeu de ping-pong. La femme de l'Est est fatiguée de la guerre. La communauté internationale est responsable avec tout ce qui nous est arrivé, avec les groupes armés étrangers, avec les M23 qui sont là, parce qu'il y a même des rapports de la communauté internationale, des experts des Nations Unies. Et donc je pense que la société civile qui va venir en aide dans la vulgarisation, mais ce n'est pas elle le premier destinataire.
Denis Ouar dit « Le problème congolais nécessite seulement la volonté des Congolais. L'ONU fera des résolutions et des résolutions sans succès. La violence sexuelle est un symptôme de l'insécurité. Il faut mettre fin à la guerre et cela prendra fin, car la fin de la guerre est une affaire congolaise. » Mais là, on vous a suivi, madame, vous semblez plus jeter la balle dans le camp de la communauté internationale.
Bien sûr, je n'ai pas jeté totalement la balle dans le camp de la communauté internationale, Parce que quand je dis que la résolution est destinée aux États, c'est-à-dire la République démocratique du Congo a des obligations vis-à-vis de la protection de la population. Mais j'ai dit de la communauté internationale, parce que si les Rwandais n'étaient pas venus au Congo, je suis convaincue que ce que nous vivons aujourd'hui, on ne pouvait pas le vivre. La communauté internationale connaît les acteurs qui alimentent la guerre à l'est de la RDC, et donc le conflit en RDC devient un conflit au-delà du territoire congolais, et donc ça demande aussi une solution au-delà du territoire congolais. Parce que si le M23, si on met fin au M23, au RDC, ainsi de suite, il y a des petits problèmes internes que le gouvernement congolais lui-même peut prendre en charge et la sécurité et le développement va se sentir en République démocratique du Congo.
Alors pour terminer, madame, parce qu'il faut déjà conclure en un mot, quelle chance vous accordez à cette résolution 2106, brièvement?
La chance, je ne saurais pas dire. Si cette résolution ne peut pas mettre fin au conflit armé, or ce n'est pas le cas, et donc pour moi c'est une résolution de bonnes intentions qui Merci. Vient s'ajouter au reste.
Maître Bondo, quelle chance faut-il accorder à cette résolution?
La chance à lui donner est tributaire de l'engagement des autorités congolaises. Parce que la résolution charge tous les gouvernements de la protection des droits humains et de la lutte contre l'impunité. Or, nos autorités, si elles sont responsables et conscientes de leurs responsabilités, elles devront s'assumer.
Madame Annie Kenda, un mot en guise de conclusion.
Oui, effectivement, nous voulons que tout le monde s'implique et que cette résolution soit effectivement mise en œuvre. Et notre souhait est que dès maintenant qu'on puisse les traduire dans différentes langues et qu'on les vulgarise et que tout un chacun prenne sa part de responsabilité pour pouvoir l'appliquer et cela pourra avoir des effets sur les cas des viols et nous voulons que les viols s'arrêtent et les violences sexuelles s'arrêtent en RDC.
Merci mesdames et messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. Au revoir.